Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant en partenariat avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par Didier Travier, prédicateur de l'Église protestante unie. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
La belle route, la chère route, vertigineuse amie, promesse immense, la grande chance, la chance suprême, la chance unique de sa vie est là, sous ses yeux, sous ses pas, brèche fabuleuse, déroulement sans fin, miracle de solitude et d'évasion, arche sublime lancée vers l'azur. Qui n'a pas vu la route à l'aube, entre ces deux rangées d'arbres, toutes fraîches, toutes vivantes, ne sait ce que c'est que l'espérance. La grâce et la paix vous sont données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bienvenue, chères auditrices, chers auditeurs, dans ce moment de culte pour le troisième dimanche de l'Avent. Et après Georges Bernanos qui nous parlait de la route, écoutons à présent l'éloge de l'espérance par Charles Péguy. Quel ne faut-il pas que soit ma grâce et la force de ma grâce, dit Dieu, pour que cette petite espérance, vacillante au souffle du péché, tremblante à tous les vents, anxieuse au moindre souffle, soit aussi invariable, se tiennent aussi fidèles, aussi droites, aussi pures, et aussi invincibles, immortelles et impossibles à éteindre, que cette petite flamme du sanctuaire qui brûle éternellement dans la lampe fidèle. Une flamme tremblotante à traverser l'épaisseur des mondes, une flamme vacillante à traverser l'épaisseur des temps, une flamme anxieuse à traverser l'épaisseur des nuits. Depuis cette première fois que ma grâce a coulé pour la création du monde, depuis toujours que ma grâce coule pour la conservation du monde, depuis cette fois que le sang de mon Fils a coulé pour le salut du monde, une flamme impossible à atteindre, impossible à éteindre au souffle de la mort. L'espérance. Dans les souffrances et les inquiétudes de notre monde, prêtons l'oreille à cet appel de l'espérance qui murmure au fond de nos cœurs. L'espérance ne commence que quand il n'y a plus rien à espérer. L'espérance ne peut venir que d'ailleurs. L'espérance ne peut être qu'inespérée. L'espérance est le contraire d'une logique, c'est une folie. Ne demandez pas à l'espérance de calculer quel sera l'avenir. L'espérance n'en sait rien. Elle ne veut pas le savoir. La seule chose dont l'espérance est certaine, c'est qu'il y a un avenir. La seule chose que peut annoncer l'espérance, c'est que de la nuit naît le jour. L'espérance ne peut qu'être fragile et incertaine. Elle ne conquiert jamais, elle ne domine jamais. Elle est humble et fraternelle. L'espérance nous devance toujours. Ce n'est pas nous qui pouvons créer l'espérance. C'est l'espérance qui nous crée. Devant cet appel à l'espérance, nous voulons nous recueillir et confesser notre tiédeur et notre manque d'espérance. C'est la prière de repentance. Seigneur, en ce temps de l'Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle. Donne-nous d'écouter à nouveau les murmures de ton esprit qui en nous prie, veille et espère. Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi, afin de nous engager partout où la vie est bafouée, où l'amour est piétiné et l'espérance menacée. Seigneur, en ce temps de l'Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l'avènement et le triomphe ultime de ton royaume d'amour. Ne soyez pas tristes et sans espérance, nous dit le Seigneur. Dans la personne de Jésus, le Fils en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes agité, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas triste et sans espérance, parole de Dieu. Mon pardon déjà vous a rejoint. Écoutez et vous vivrez. Nous prions à présent avant de lire les Écritures. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Nous t'en prions. Donne-nous maintenant ton esprit, afin que l'Écriture devienne en nous une parole qui illumine nos vies. Le texte de l'Évangile qui nous est proposé pour ce troisième dimanche de l'Avent se trouve donc dans le quatrième évangile, l'évangile de Jean, au chapitre 1. D'abord les versets 5 à 8, puis les versets 19 à 28. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ?» Il confessa sans le nier, il confessa « Moi, je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Quoi donc, es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ? » Il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu ?» afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ?» Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Nous sommes donc dans le temps liturgique de l'Avent, qui est le temps de l'attente, le temps de la préparation. Et Jean-Baptiste est bien l'homme de l'attente et de la préparation. C'est le précurseur, le signe avant-coureur. Comme la première lumière du soleil qui se lève à l'horizon. Après l'Avent, il y aura Noël. Et après Jean-Baptiste, il y aura Jésus. Après l'attente, il y a la venue. Mais quand l'année liturgique se finit, une autre recommence. Et quand le Christ s'en va, une autre espérance commence, celle de son retour. Il y a là un symbole très puissant qui nous dit en fait qu'on n'en a jamais fini avec l'attente. Elle est toujours là, inscrite au plus profond de notre humanité. Jean-Baptiste attend la lumière, nous dit le prologue, au cœur des ténèbres. Il annonce le fleurissement de la vie dans la désolation du désert. Toute espérance naît dans l'obscurité et l'aridité, et sinon, pourquoi espérer ? On n'espère pas quand tout va bien. Aussi, ce texte nous atteint dans nos propres ténèbres et nos propres désolations, dans les ténèbres et les désolations de notre monde. Alors, nous n'irons pas chercher dans l'Évangile de ce jour un document sur un lointain passé, un document historique sur Jean-Baptiste. Non. Nous y chercherons plutôt un viatique pour nos marches nocturnes et nos traversées de désert. Une sorte de kit de survie pour périodes difficiles, un petit nécessaire dans lequel nous trouverons des mots qui nous aident à espérer. Le premier de ces mots, c'est paradoxalement le mot « rien ». Qui es-tu, Jean ? Je ne suis rien, et même moins que rien. Je n'ai aucun titre messianique à présenter. Je suis une sorte de sans-papier de l'espérance. Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas non plus l'une de ces figures subalternes que l'on associait à la venue du Messie, comme Élie et le prophète. Je ne suis même pas l'esclave du Messie, celui qui délace ses sandales. C'est la première leçon que je retiens de ce texte. Nous nous sentons si souvent petits et impuissants. Nous n'avons aucun titre pour justifier une espérance. Mais voici que justement, dans ce texte, l'espérance est portée par celui qui se sent petit et impuissant, par celui qui se sent indigne de ce qu'il espère, tellement il est peu. Et tellement son espérance est grande. Qui es-tu, Jean ? Les religieux qui l'interrogent veulent situer Jean quelque part sur la carte eschatologique. L'espérance se fait volontiers des films. Elle imagine l'avenir à défaut de pouvoir le réaliser. Alors on se dit que le Messie viendra dans telle et telle circonstance, et puis avant il y aura Élie. Vous savez, Élie, celui qui a été enlevé sur un char de feu et donc il n'est jamais mort, et donc s'il n'est jamais mort, il va réapparaître un jour ou l'autre. Et puis ce nouveau Moïse, annoncé dans le Deutéronome, « L'Éternel, ton Dieu, tu susciteras du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi, Moïse. » Oui, l'âme humaine aime bien dessiner l'avenir, dépeindre les palais et les rues du royaume d'Utopie. C'est ce que faisaient par exemple les marxistes, quand ils nous prédisaient le grand soir et les lendemains qui chantent. Certains, au goût peut-être un peu plus morbide, aiment bien aussi mettre en scène le grand spectacle des catastrophes annoncées. C'est ce que font toutes les sectes qui nous racontent la fin des temps comme si on y était. Mais voilà, rien ne se passe comme prévu. Et Jean est ici l'imprévu du scénario messianique. Il n'a pas sa place dans les schémas préétablis forgés par les doctes qui ont médité les Écritures anciennes. Et il y a plus. Qu'est-ce que Jean nous dit en effet au sujet de celui dont il annonce la venue ? Il nous dit ceci, « Il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. » C'est tout ce que Jean trouve à dire de celui dont il attend la venue. Il est celui que vous ne connaissez pas. Il est l'inconnu. C'est notre deuxième mot que nous mettrons dans notre paquetage de survie, dans notre kit d'espérance, l'inconnu. L'espérance qui naît dans le rien de la fragilité et de la faiblesse ne peut pas non plus se représenter quoi que ce soit de l'avenir. Elle est attente, confiante, mais ce n'est pas à elle de décider ni de prévoir comment son désir sera exaucé. Après nous être libérés du fardeau d'être quelqu'un ou du regret d'être trop peu, de ne pas pouvoir être à la hauteur de notre espérance, libérons-nous aussi de la charge de vouloir savoir où l'on va. Cela ne nous regarde pas et c'est bien ce qu'exprime l'image par laquelle nous avons commencé ce culte de la route dans ce texte magnifique de Georges Bernanos. La route est échappée vers les lointains, ouverture de tous les possibles, promesses de toutes les aventures. Alors, empruntons la route dans la confiance en l'inconnu qui vient nous visiter. Cette image de la route, elle est aussi présente dans notre texte. Quand Jean cite le prophète Ésaïe, je lis la citation complète, « Ouvrez le chemin du Seigneur, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. » Un magnifique chant d'espérance du prophète Ésaïe, c'est un chant d'espérance qui renvoie aux exilés de Babylone qui aspirent à la délivrance et au retour au pays à travers les steppes de la Mésopotamie. Mais dites-moi, quel chantier pharaonique, niveler dans la steppe, élever les vallées, abaisser les collines. On perce des tunnels pour traverser les montagnes, on construit des ponts pour enjamber les vallées. Notre Occident a vécu et vit encore, en dépit de la crise écologique, à bien des égards, continue à vivre cette espérance au bulldozer. La superpuissance technologique, les grands projets politiques qui devaient ouvrir les autoroutes du bonheur. Eh bien, une chose me frappe dans le texte d'Ésaïe, c'est qu'il n'y est pas question de tracer une route, d'ouvrir des tunnels, de créer des ponts pour aller vers la promesse, mais pour laisser la promesse venir à nous. La route du Seigneur dans le texte n'est pas la route que, dans leur prétention babélienne ou de superpuissance technologique, les hommes tracent pour rejoindre leur idéal. c'est la route que le Seigneur lui-même emprunte. Non pas la route qui va vers le Seigneur, mais la route par laquelle le Seigneur vient. Ouvrez la route, mais laissez venir sur cette route celui qui vient à vous. Il y a là, je crois, une magnifique image pour dire ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Espérer, c'est frayer des chemins, c'est jeter des ponts, c'est aplanir des obstacles pour rendre possible la venue de quelque chose. Mais il ne nous appartient pas de créer cette chose. Elle arrivera ou pas, d'elle-même, à sa manière, à son rythme. Je crois que c'est cela, être un terrassier de l'espérance, c'est ouvrir des routes sans savoir qui les empruntera. C'est par exemple dans les relations avec les autres, créer les conditions pour rendre possible l'avènement de quelque chose que nous ne maîtrisons pas, comme un espoir retrouvé, un sursaut salutaire, une acceptation de soi, une réconciliation, une confiance renouvelée, une affirmation de sens. Voilà, après le rien et l'inconnu, la troisième parole de notre trousse de voyage. La route. La route, non pas qu'on crée pour aller vers la promesse, mais la route par laquelle la promesse vient à nous. Ouvrez le chemin au Seigneur, mais c'est lui qui s'approchera. Semez, est-il dit ailleurs, mais c'est lui qui fait germer. Cette modestie de l'espérance en acte se retrouve dans une seconde parole de Jean, en réponse à la question des autorités religieuses, suspicieuses, pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ ? Et Jean répond, moi je baptise d'eau, sous-entendu je ne baptise que d'eau. Lui, comme l'ajoutent les évangiles synoptiques, lui baptisera d'esprit et de feu, selon la prophétie du prophète Malachie. Le messager du Seigneur est comme le feu d'un fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il siégera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme on affine l'or et l'argent. L'eau et le feu. L'eau lave la saleté extérieure du corps. Le feu, lui, purifie à l'intérieur. Là aussi, les rôles sont bien distribués. À nous l'eau, à lui le feu. Éradiquer le mal à sa racine n'est pas notre affaire. Commençons déjà par ce qui est à notre portée. À faire le ménage à grande eau dans nos vies, à soigner nos relations avec les autres, à nettoyer la crasse qui autour de nous défigure l'humain, la crasse de la misère et du rejet. Commençons par l'eau, le feu viendra après. Commençons, dit Jean, par la repentance. Jean-Baptiste prépare la venue du Seigneur en prêchant le baptême de repentance. C'est ça que signifie le baptême d'eau. Car la confiance pour l'avenir dont nous parlions tout à l'heure, la confiance pour l'avenir, n'exclut évidemment en rien notre sens des responsabilités, c'est-à-dire l'appréhension lucide des conséquences de nos actes. Et le repentir, à la fois individuel et collectif, pour les voies suicidaires que nous suivons. L'espérance commence par la repentance et la conversion, le changement de cap. Et c'est là la symbolique que Paul attachera au baptême d'eau. Le baptême, c'est le vieil homme qui se noie et le nouvel homme qui émerge. Alors voilà notre dernier mot pour la route, l'eau. L'eau comme symbole de notre engagement dans une vie nouvelle. Alors pour conclure, jetons un dernier coup d'œil dans notre caisse à outils, dans notre paquetage de survie. Oh, il ne contient que des instruments bien rudimentaires. Parce qu'au fond, nous n'avons pas besoin de grand-chose pour espérer. Nous ne sommes pas à la hauteur de nos espérances. Nous n'arrivons même pas à ses chevilles pour délier ses sandales. mais cela ne nous empêche pas d'espérer. Malgré le rien que nous sommes. Nous ne savons pas de quoi demain ni après-demain seront faits. Mais cela ne nous empêche pas d'attendre en confiance l'inconnu qui vient. Nous n'avons pas le pouvoir de susciter les événements. Mais cela ne nous empêche pas d'en préparer au mieux la venue, d'ouvrir la route. Nous n'avons pas le pouvoir d'éradiquer le mal par le feu purificateur. Mais cela ne nous empêche pas de chercher à vivre une vie nouvelle, lavée dans l'eau du baptême. Et c'est dans cette humble espérance que nous pourrons devenir les témoins de la lumière qui vient. À cet égard, le prologue de Jean dit quelque chose de très étonnant au sujet de Jean-Baptiste. Je relis, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Par lui, pas par la lumière, par lui, Jean. Par lui qui n'est pas digne d'être le serviteur du Christ. Par lui qui ne baptise que d'eau. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction si les petits signes d'espérance que nous posons dans nos vies et nos communautés bien modestes, si ces signes peuvent permettre à quelques-uns de croire qu'une lumière vient. Amen.
Garde l'espérance, un autre temps viendra, ta souffrance demain finira. Garde l'espérance, ne crains jamais le sort, en silence résiste et sois fort. Une étoile dira le la brise gémit, les oiseaux n'ont plus de chansons, et seule, sans amis, la vie te semble une prison. N'entends-tu pas quand vient la nuit, dans le lointain, la voix qui dit demain finira. Garde l'espérance, ne crains jamais le sort, en silence résiste et sois fort. Une étoile dira le
confessons à présent notre foi en réponse à ce cantique, on pourrait dire, de René Lebas, garde l'espérance que nous venons d'entendre. Et nous confessons notre foi avec un texte de Martin Luther King. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, j'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapable de faire une terre meilleure. Je refuse de partager la vie de ceux qui prétendent l'homme à ce point captif de la nuit que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot, effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier dans sa vigne, et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Mais malheureusement, cette espérance qui nous porte est sans cesse démentie par la souffrance du monde. Et c'est cette souffrance que nous voulons à présent porter dans la prière d'intercession. Notre monde, ô Dieu, devait être un jardin, mais il est un désert pour tant et tant de gens, désert de nourriture. Désert d'affection, désert de spiritualité. Nous t'en prions, aide-nous à ménager dans ce monde désertique des oasis pour tous ceux qui en ont besoin. Sois toi-même la source d'eau vive qui les délivrera de la sécheresse. Nous te remettons les enfants mal aimés, les parents incompris, les couples déchirés, les hommes et les femmes découragés par les épreuves de la vie. Les malades et les mourants, les populations victimes de la guerre et de la violence. Envoie-nous comme des messagers de ta présence et de ton réconfort. Et quand tu veux nous utiliser pour être à notre tour ces anges, ces visiteurs de ton espérance et de ta miséricorde, fais-nous la grâce de nous renouveler la disponibilité et la compréhension sans lesquelles nous ne pourrions être les témoins de ton amour parmi les hommes. Et chers auditeurs, nous pouvons dire ensemble maintenant la prière que le Seigneur nous a enseignée et qui les récapitule toutes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, l'espérance. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et avant de clore ce culte par une chanson d'Enrico Macias, La folle espérance, juste dire un mot que cette chanson a été chanté en 1978 pour célébrer les accords de Camp David entre Israéliens et Palestiniens. Et en prolongement de notre prière d'intercession, voilà, nous voulons porter la souffrance de ces deux peuples déchirés dans la guerre. Que le Dieu de l'espérance folle vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.
قديش قلبي معذب قديش مازالي قاسي واللي عملته بيدي عباد الله واللي عملته بيدي عباد الله مكتوب في جبين راسي ايه 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 مازال ربنا يفرج علينا، مازال ربنا يفرج علينا وعلى ولادنا. C'est la folle espérance, il faut faire tout ce que l'on peut. Un jour dans ce désert, nous pourrons être heureux. Chaque main tendue est un pas de plus vers tout ce que l'on croyait perdu. C'est la folle espérance, je sais bien qu'il faudra du temps. Mais l'amitié revient et c'est très important. La terre où était le paradis. Demain nos enfants n'auront plus à souffrir si maintenant on prend le temps de se tourner vers l'avenir.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de son site internet nimes-eglise-protestante-unie.fr ou en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par Didier Travier, prédicateur de l'Église protestante unie de France. Restez à notre écoute pour la suite de nos programmes.
C'est une chance qu'il faut saisir. Si mes mains tremblent, c'est que j'espère qu'ils vont ensemble dans plein et nos joies. On se ressemble, nous sommes frères. Chantons ensemble, alléluia.
Fate will take a hand, and I'm back where I started.